Vous écoutez Radio Grand-Ciel, bonjour à tous. Je vous propose maintenant une émission Personnage insolite préparée et animée par Christina Fautard
et Elisabeth Couget. En été, certains d'entre vous marchent sur la plage, se baissant de temps à autre pour admirer de plus près un joli coquillage.
Et c'est ce qu'avait fait toute sa vie notre personnage insolite d'aujourd'hui. Toutes ses journées, année après année, elle les a passées sur la plage.
Elle s'appelle Mary Anning. Elle est née le 21 mai 1799, il y a un peu plus de deux siècles, en Angleterre. Et elle deviendra l'une des paléontologues les plus respectées de l'histoire. Ce personnage modeste, obscur, humble, est la plus grande chasseuse de fossiles au monde et ses découvertes ont été précieuses pour notre connaissance de la préhistoire et de l'histoire de la Terre.
Elle a dû aussi braver les tabous de l'Angleterre pré-victorienne, misogyne et fermée devant les femmes.
Eh oui, Mary Anning, née à Lyme Regis, un village de la côte sud de l'Angleterre, dans le Dorset, et c'est là qu'elle va vivre toute sa vie.
Lyme Regis, qu'on surnomme la perle du Dorset, est une station balnéaire, une petite ville attrayante avec une minuscule rivière, la Lyme, qui se jette dans la mer. Alors, sur la place, l'auberge des trois cups.
Three cups of tea, peut-être, ou autre chose.
Oui, une chope de bière,
plutôt.
Une plage de sable et un port paisible.
Et surtout, un littoral grandiose. De grandes falaises calcaires et des collines qui ondulent où se mêlent le gris, le vert et le brun. Près des falaises, au-dessus des rochers, des sentiers sauvages tapissés de lierre et de mousse.
Et sur la plage, un récif appelé le cimetière des serpents,
qui n'affleure qu'à marée basse. On y trouve de drôles de cailloux en forme de spirale, creusés de stries, comme un serpent lové, et qu'on appelle d'ailleurs des pierres serpents.
C'est donc là que grandit la petite Mary Anning.
Dans une famille très modeste. Ses parents, Richard et Molly Anning, ont 10 enfants, mais deux seulement parviendront à l'âge adulte, Mary et son frère Joseph.
Alors toute petite, elle vit une expérience hors du commun.
Elle est la seule survivante d'un groupe de 4 personnes qui se trouvaient sous un arbre frappé par la foudre. Les 3 autres sont tués sur le coup, dont la personne qui la tenait dans ses bras. On considère sa survie comme un miracle et sa curiosité, son intelligence, sa vivacité seront souvent attribuées à cet événement.
C'est une petite fille pleine d'énergie, aux yeux marrons, brillants. Elle va quelques années à l'école où elle apprend à lire et à écrire, mais son éducation reste tout de même assez limitée.
Les temps sont durs en Angleterre, au tout début du 19e siècle. Les guerres napoléoniennes, le blocus imposé par Napoléon, ont entraîné une hausse des prix et la misère.
Que font les parents de la petite Mary ?
Alors, son père gagne sa vie comme menuisier, mais pour arrondir ses fins de mois et gagner un peu plus d'argent, il emmène régulièrement la petite Mary et son frère, Joseph, dans des expéditions de collecte de fossiles pour les revendre aux touristes.
Donc il y avait déjà des touristes en Angleterre à cette époque-là.
Ah, mais absolument, c'était déjà une station
c'est vrai,
balnéaire.
Les Anglais étaient très, oui, très en avance.
Peut-être pas dans la même tenue qu'aujourd'hui,
non,
bien sûr.
Probablement. Alors les fossiles dans la région sont très nombreux sur la plage et dans les falaises alentour. Au fait, qu'est-ce qu'exactement qu'un fossile ?
Alors c'est un animal ou un végétal conservé dans un sédiment et dont la matière organique a été progressivement remplacée par de la matière minérale, si bien qu'il apparaît comme pétrifié, autrement dit
changé
en pierre.
Voilà, c'est ça. Alors la côte regorge notamment d'ammonites, ces pierres serpents dont nous avons parlé.
Et qui, bien sûr, ne sont pas des serpents, mais des créatures marines, comme des nautiles, avec une coquille protectrice. Pour Mary, trouver ces ammonites dorées, c'est comme une chasse au trésor. Elle trouve aussi des bélemnites, qui sont, eux, des fossiles en forme de flèches ou de cartouches.
Et puis, les crinoïdes, oui, ou lys de mer, des griffes du diable, des bizarres, des éclairs et des bivalves en forme de cœur. C'est joli tout ça.
Et ces fossiles proviennent d'un âge très lointain, le Jurassique, à l'ère secondaire, marqué par le dépôt d'épaisses couches calcaires, il y a environ 200 millions d'années. Le site se trouvait alors sous l'eau, à quelques centaines de mètres de la côte, et lorsque le niveau de la mer est tombé, les fossiles se sont retrouvés sur la plage et dans les falaises rocheuses surplombantes.
Et d'ailleurs, depuis le début de l'histoire humaine, les hommes ont été fascinés par les fossiles qu'ils trouvaient, même parfois des dents ou des os.
Oui, comme par exemple un texte chinois qui date d'il y a 1700 ans et qui évoque, alors en Chine c'est normal, des os de dragons. Il courait d'ailleurs d'étranges histoires sur les fossiles. On en a retrouvé dans de très anciennes sépultures. Et on leur a aussi prêté des pouvoirs médicinaux. La médecine chinoise utilise encore aujourd'hui des coquilles fossiles broyées puis cuites et qui soignent toutes sortes de choses.
D'accord, c'est pas encore des médicaments que nous trouverons dans nos pharmacies.
Peut-être pas tout de suite, je pense pas.
Peut-être des génériques, je ne sais pas. Mary se révèle très douée pour trouver des fossiles. Il faut avoir l'œil. C'est comme chercher un trèfle à quatre feuilles. C'est juste devant nous, mais on ne le voit pas.
Exactement. Elle se prend de passion pour cette activité difficile et mystérieuse. À la mort de son père en 1810, elle a 10 ans, la famille se trouve en grande précarité. Les fossiles deviennent alors pour Mary un travail à plein temps.
Elle redouble d'ardeur. Elle cherche les fossiles à marée basse, les nettoie, les polie, les trie par spécimen.
Et vend ce qu'elle appelle des curios pour... curiosité, sur une table devant la maison. Elle les vend aux touristes, aux collectionneurs, aux amateurs d'objets insolites, car dans les années 1800, les collections de fossiles sont très en vogue, c'est un peu comme les collections de papillons. Mais progressivement, cela va devenir une science.
Alors Mary fait un travail difficile, mais aussi dangereux, surtout en hiver.
Elle frôle la mort lors d'un glissement de terrain sur la plage. Mais c'est justement en hiver que les fossiles se trouvent le plus facilement. Les averses les font dégringoler, les tempêtes nettoient les récifs et les débarrassent des algues et du sable. On y voit plus clair. Le travail doit aussi être rapide, car à cause des marées, les fossiles sont vite happés par les vagues et disparaissent.
Alors il faut se hâter de les mettre au jour et de les récupérer. Mary découvre aussi de drôles de petits cubes comme des graines de maïs. Ce sont en fait des vertèbres d'animaux marins de l'époque jurassique.
Oui. Et voici la scène qui se déroule en 1811. Deux enfants sur la plage, munis de piolets, occupés à retourner sable et terre. Mary et son frère, juste après une effroyable tempête.
Et au bout de quelques heures, du cri de joie, une trouvaille étonnante.
Le squelette d'un animal extraordinaire, un peu comme un très grand crocodile. Mary a 12 ans seulement. Cet exploit, cette découverte importante sont relatés dans la revue de la Royal Society, la Société Royale à Londres.
À Londres. Et alors, avant de dévoiler la découverte de Mary Anning, et pour nous mettre dans l'ambiance, voilà, on vous propose
un paysage sonore du Jurassique
en pause musicale.
Voilà.
À 12 ans, Mary Anning, puisque c'est d'elle que nous parlons aujourd'hui dans notre émission Personnages insolites, Mary Anning met donc à jour un squelette de dinosaure, exactement un ichthyosaure.
Les ichthyosaures ont déjà été découverts et décrits en 1699, mais c'est la première fois que l'on découvre le squelette aussi complet d'un ichthyosaure long de 10 mètres. Mary a repéré dans la roche un cercle d'écailles osseuses, un œil de croco, en fait des yeux immenses puisque des yeux de 10 cm de diamètre.
Les enfants ont le souffle coupé de voir ces étranges contours dans la paroi de la falaise.
Aidés par des carriers, ils parviennent à sortir et à dégager le fossile incrusté dans une strate de la paroi rocheuse.
Il a une longue mâchoire effilée, pleine de dents régulières et un long museau pointu.
Une fois découvert, on s'aperçoit qu'il crevait les yeux dans la falaise. Encore fallait-il
le
voir.
On ne voyait que ça.
Voilà. Avec sa forêt de dents et son œil comme une soucoupe ou comme une rondelle d'ananas. Ses yeux qui lui donnaient une grande acuité visuelle.
Les ichthyosaures voyaient bien, même en s'enfonçant dans les profondeurs de la mer, jusqu'à 1000 mètres de distance.
De profondeur.
Exactement, où la lumière ne pénétrait plus.
La créature, venue du fond des âges, attise un intérêt considérable et va devenir très célèbre. Du coup, ce ne sont plus seulement les touristes et les collectionneurs qui viennent, mais aussi les scientifiques. Le « croco », entre guillemets, est baptisé ichthyosaure, c'est-à-dire poisson lézard.
C'est un reptile marin, respirant comme un mammifère, mais nageant comme un poisson. Ils sont fins, élancés et rapides à se déplacer.
Ils ont peuplé la Terre pendant 60 millions d'années, une étonnante longévité. Des savants en débattent dans des conférences et lui consacrent des articles.
À l'époque, la paléontologie est une science nouvelle, représentée par Georges Cuvier, qui l'enseigne à Paris. C'est l'étude des êtres vivants anciens, animaux ou végétaux, conservés à l'état de fossiles.
Oui, ou représenté aussi par l'anglais Richard Owen, qui donnera en 1842 un nom global à ces espèces disparues, un nom qui va faire fureur, les dinosaures, c'est-à-dire les lézards terribles.
Alors l'ichthyosaure de Mary est exposé au British Museum, mais Mary est exclue des débats et des conférences.
Elle passe des heures dehors, Mary, à essayer de découvrir d'autres fossiles, à fouiller le littoral en quête de trésors immémoriaux. Elle est brûlée par le soleil, maculée, sale, les cheveux en bataille, les ongles cassés, les chaussures couvertes de boue.
Elle se lie d'amitié avec Elizabeth Philpot, qui collectionne les poissons fossiles, plus âgés et cultivés. Elle encourage la petite Mary à lire, à s'informer et à mieux connaître la science des fossiles.
Au début des années 20, un autre collectionneur de fossiles, le colonel Birch, va aider la famille Anning à sortir de sa situation financière désespérée. Il vend aux enchères à Londres toute sa collection de fossiles et offre la somme reçue à Mary et sa famille.
Mary acquiert de réelles compétences à force de travail et elle devient experte en fossiles.
En 1821, une nouvelle découverte majeure. Un squelette bizarre qui ne ressemble à aucune espèce connue. Un autre grand reptile marin qu'on appellera plésiosaure. Le plésiosaure que Mary découvre est encore considéré aujourd'hui comme le spécimen type de cette espèce.
Il a 2,70 m de long, d'imposantes nageoires en losange, un cou de cygne, long tel un ruban, d'où le nom
de lézard ruban.
Voilà, c'est ça. Et flexible.
Oui.
Et il faut dire qu'il a une toute petite tête.
Peut-être pas très intelligent, petit comme
crâne,
le diplodocus.
Voilà. C'est ça.
Dans les eaux peu profondes du Dorset, il y avait beaucoup de plancton qui attirait des animaux plus gros. Et lorsqu'un plésiosaure ou un ichthyosaure mourait, son corps tombait au fond de la mer et il arrivait qu'il se fossilise et que le squelette soit préservé donc dans la roche.
Et Marie les découvre des millions d'années plus tard.
Des millions d'années plus tard, exactement. Ce sont des centaines de créatures dormantes dans la falaise qui attendent juste qu'une paire d'yeux pénétrants les aperçoive. Mary a l'œil et la technique. Elle étudie toute seule leur anatomie, elle observe leurs variations et leurs nuances, elle reconnaît le caractère unique d'espèces inconnues.
Le plésiosaure de Mary est acheté par Georges Cuvier pour être exposé à Paris.
Sais-tu que selon une légende, des plésiosaures réfugiés dans les profondeurs de lacs isolés auraient survécu à la disparition de l'ensemble des dinosaures il y a 65 millions d'années, tel le mythique monstre du Loch Ness.
Bien sûr, ah non, je ne savais pas.
Non, en fait.
Mais maintenant, il y a une explication.
En fait, non.
Voilà. En fait, pas un ne survécu, il me semble. Après les ichthyosaures, les plésiosaures, la plage de Lyme devient célèbre. Mary impressionne les gens qui viennent par sa connaissance des fossiles.
Et son talent pour les trouver. Sa réputation attire les touristes et fait marcher le commerce à Lyme Regis. Mary devient une star locale. Elle guide aussi dans leurs recherches des géologues passionnés comme Henri de la Bêche.
La Société géographique de Londres écrit un très long article sur les trouvailles de Mary, de 29 pages avec 8 pages d'illustrations.
Oui, c'est énorme. Mais beaucoup s'approprient ces découvertes en la citant à peine. Il faut dire que c'est un monde d'hommes. Un bout de remerciement pour Mary et c'est tout. Le nom de Mary ne sera jamais consigné dans les revues ou les ouvrages scientifiques. Même si elle est capable d'identifier les fossiles et de converser avec des scientifiques de renom.
Pourtant, on vient de la voir, on achète ses spécimens. Et même le duc de Buckingham ou le roi Frédéric Auguste II de Saxe.
Comme aussi William Buckland, qui en 1824 découvre dans la région d'Oxford un énorme fossile de reptile, le Mégalosaurus. Mais Mary est une femme de la classe populaire.
Elle n'est donc pas admise au sein des sociétés et des cercles scientifiques.
Beaucoup d'hommes n'arrivent pas à croire qu'une jeune femme sans culture, d'une origine si modeste, puisse rivaliser avec eux. Comment imaginer qu'une pauvre fille ignorante se montre si douée en ce domaine, écrivant et parlant avec des personnalités des plus hautes sphères scientifiques.
En 1828, survient une nouvelle découverte fantastique de Mary. Alors découvrons-la après une pause musicale. Voilà, une
tirée du film Jurassic Park.
Voilà,
c'est là. Bien qu'on place
c'est obligatoire.
Musique.
Voilà.
Cette fois-ci, c'est un ptérodactyle complet que trouve notre personnage insolite d'aujourd'hui, Mary Anning. Un ptérodactyle qu'on appelle ptérosaure à présent. C'est un vertébré volant avec des ailes membraneuses et un bec denté. Il est exposé au British Museum et fait sensation auprès du public.
Ces trois découvertes, l'ichthyosaure, le plésiosaure et le
ptérosaure,
forme la partie majeure de la contribution de Mary Anning à la paléontologie.
Mais un autre problème se pose, très important. C'est que les découvertes de Mary Anning, parmi d'autres, bouleversent les croyances de l'époque.
Depuis très longtemps, on l'a vu, les hommes sont intrigués par la présence dans le sol de squelettes et d'animaux parfois étranges.
Et à l'époque de Mary Anning, en Europe, on croit fermement que le monde est exactement le même que celui du récit de la création dans la Genèse. Beaucoup s'accrochent encore à la version formelle de la Bible. La création du monde en 6 jours, les animaux, les reptiles.
Voilà. Donc tout est bouleversé en fait. Les idées reçues et les idées transmises, tout à fait.
Ça remet tout en question.
Alors, voilà, Dieu est omniscient, incapable d'erreur. Comment imaginer que Dieu aurait créé des espèces et les aurait fait disparaître?
Car si on suggère qu'il y a des espèces disparues, mortes, fossilisées, on met en doute la perfection de la création divine. La personne de Mary Anning, autant que ses découvertes, se prête à des controverses parfois violentes, qui en même temps contribuent à la faire connaître.
Alors cela remettait en cause tous les dogmes admis en Europe. Y aura-t-il un temps où des reptiles géants parcouraient la terre, les mers et le ciel?
C'est vrai que l'idée est trop radicale pour la plupart des gens. L'esprit est comme au bord d'une falaise, d'un abîme vertigineux. C'est un saut dans l'inconnu et un coup sévère porté aux arguments religieux.
Alors, plusieurs scientifiques ont commencé à se pencher sur cette question de l'extinction de l'espèce.
Une explication est donnée pour justifier la disparition de tant d'espèces. C'est le déluge qui aurait permis de se débarrasser des animaux dont Dieu ne voulait pas. Noé dans son arche sauve certains animaux et pas d'autres, d'où l'explication des fossiles.
Les animaux utiles. Mais déjà, ne pas prendre la Bible à la lettre.
C'est la première chose. Terrible. Les exégètes de la Bible, autrefois, évaluaient la création du monde à 6000 ans plus tôt. C'est-à-dire, il n'y a pas tellement de temps. Jacques Boucher de Perthes, qui est en fait l'inventeur de la préhistoire, démontre que l'évolution de l'homme commence en des temps beaucoup plus reculés que 6000 ans. Les 6 jours de la Genèse seraient en fait 6 périodes de la création de plusieurs milliers, voire plusieurs centaines de milliers, voire des millions d'années chacune.
Un peu plus tard, Charles Darwin écrit en 1859 « L'origine des espèces » et explique que les êtres vivants ont évolué depuis l'apparition de la vie sur Terre. Le monde n'est pas immuable, il évolue en permanence, comme nous le constatons encore aujourd'hui. La Terre est en perpétuelle mutation.
Après Mary Anning, les découvertes de fossiles ont été innombrables. Citons, par exemple, en 2014, la mise à jour en Patagonie, en Argentine, de quelque 200 dinosaures géants, une espèce qu'on n'avait encore jamais trouvée, et à laquelle on donne le nom de titanosaure, avec, attention, des os de fémur de 2,40 m de long et un poids estimé à 70 tonnes.
C'est pas petit, hein, c'est pas un petit chat. Alors revenons à Mary Anning, dont les découvertes sont une preuve d'un monde perdu absolument prodigieux et des créatures extraordinaire. En 1830, elle va tout de même recevoir une rente annuelle du gouvernement qui va l'aider à vivre.
Et quelques mois seulement avant sa mort, elle est élue membre honoraire de la Société géologique de Londres en dépit des statuts de l'époque qui interdisaient l'élection des femmes. Son ami Henri de la Bêche écrit son éloge funèbre. Mary a dû gagner son pain quotidien par le travail et a contribué par ses talents et ses recherches inépuisables à nos connaissances.
Cette scientifique amateur, humble d'origine, occupe dans l'histoire de la paléontologie une place particulière. Seule femme dans une communauté scientifique masculine, elle figure parmi les pionniers de cette science en Europe.
Et après bien des années d'oubli, elle est maintenant honorée comme une figure importante et pittoresque, une femme passionnée, intelligente, déterminée, dont les travaux ont eu d'incroyables retombées et ont permis une meilleure connaissance du monde.
Ces ichthyosaures et ces ptérosaures, je vais
Bravo.
Y arriver, voilà, sont exposés au Muséum d'histoire naturelle de Londres et le plésiosaure que Cuvier a acheté est à Paris, aux galeries paléontologique.
À la Galerie paléontologique de Paris, exactement. Dans son livre, intitulé avec humour « Le guide des métiers pour les petites filles qui ne veulent pas finir princesse », Catherine Dufour recense 48 métiers.
Avec pour chacun d'eux le portrait d'une pionnière. On y retrouve Mary Anning.
Pour finir, 58 millions d'années séparent la disparition des dinosaures des premiers hominidés, qui eux-mêmes ont vécu environ 7 millions d'années avant notre personnage insolite d'aujourd'hui, Mary Anning.
Et parmi eux, l'homme de Cro-Magnon, découvert en 1868, il y a 150 ans environ.
Dans le sud-ouest de la France.
Exactement.
Donc c'est un ancêtre français. Bon.
Alors d'où ce nom, Cro-Magnon,
oui. Alors grotte, dans le patois local, se dit Cro. Et la grotte appartenait à Monsieur Magnon, d'où Cro-Magnon. Voilà. Qui devient le surnom pour le grand public de l'homme, entre guillemets, moderne, d'époque préhistorique. C'est-à-dire notre très, très, très lointain ancêtre.
Voilà une bonne question pour un jeu de quiz.
Et nous terminons par une chanson humoristique chantée par les quatre barbus qui évoquent avec humour l'homme de Cro-Magnon.
Qui sont les barbus ?
Les quatre barbus, un groupe de chanteurs barbus des années 40, 50, début d'accord. 60. Voilà.
Bon, écoutons l'homme de Cro-Magnon et par la même occasion, je vous dis au revoir et je vous propose une prochaine émission le mois prochain.
Oui, bien sûr.
D'un autre personnage.
À bientôt, donc, sur Radio Grand Ciel.
C'était au temps de la préhistoire, il y a 200 ou 300 000 ans, vint au monde un être bizarre, proche parent de l'orang-outan, debout sur ses pattes de derrière, vêtu d'un slip en peau de bison. Il allait conquérir la terre, c'était l'homme de Cro-Magnon.
L'homme de Cro,
l'homme de Mar,
l'homme de Gnon,
l'homme de Cro-Magnon.
L'homme de Cro-Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon.
L'homme de Cro-Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon.
Armé de sa hache de pierre, de son couteau de pierre et tout,
il chassait l'ours et la panthère,
en serrant les fesses malgré tout.
Devant le diplodocus en rage, il se faisait tout de même un peu petit,
en disant dans son langage, vivement qu'on invente le fusil.
L'homme de Cro,
l'homme de Mar,
l'homme d'Oignon,
l'homme de Cro-Magnon.
L'homme de Cro-Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon.
L'homme de Cro-Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon.
Il était poète à 16 heures, disant à sa femme en émoi,
tu es belle comme un dinosaure, tu ressembles à Lolo Brigida.
Si tu veux voir des cartes postales, viens dans ma caverne tout là-haut,
je te ferai voir mes peintures murales, on dirait du vrai Picasso.
L'homme de Cro,
l'homme de Mar,
l'homme d'Oignon,
l'homme de Cro-Magnon.
L'homme de Cro-Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon.
Pampan, l'homme de Cro-Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon.
200 000 ans après sur terre, comme nos ancêtres nous admirons
les bois, les champs et les rivières.
Mais s'ils revenaient, quelle déception.
Nous voir suer 6 jours sur 7, ils diraient sans faire de détails,
faut-il que nos héritiers soient bêtes pour avoir inventé le travail.
L'homme de Cro,
l'homme de Mar,
l'homme d'Oignon,
l'homme de Cro-Magnon.
L'homme de Cro-Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon.
Pampan,
l'homme de Cro-Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon.